un gamin.
Dans un corps d'homme.
Il revient de l'école, là. Mais c'est toujours... Matistou! Il y a toujours ça en moi. Tout le temps. Il y a 17 ans. Cette fierté-là m'a toujours, toujours, toujours habité.
L'hiver dernier, quand il y a une grosse entreprise qui a décidé de mettre fin à son programme d'intégration d'handicapés, je me suis indigné publiquement contre cette action-là. J'ai reçu des dizaines de messages d'une rare violence, du genre...
Fais attention, si ton sperme vaut rien, enfant de chienne, c'est pas de nos problèmes.
Si ton fils n'était pas un maudit mongol, tu serais jamais impliqué là-dedans. Ce à quoi je réponds, probablement que t'as raison.
Oh. Il est limité au niveau de son avenir.
Oh, que c'est dur, ça, là. Vous avez reconnu la voix de Charles Lafortune? Et la voix féminine, c'était la voix de Sophie Préjean. Bonjour, Sophie.
Bonjour, Bernard.
Alors, c'est un extrait, donc, de ce documentaire « Autiste bientôt majeur » qui va être diffusé sur la chaîne Moi et compagnie à partir de ce soir, 19h30, de la réalisatrice Isabelle Tinclair.
Voilà.
Avant d'aller au propos du docteur Laurent Motron, là, je veux rester sur l'extrait qu'on vient d'entendre. J'en suis renversé. Je ne peux pas croire que les gens manquent à ce point de sensibilité puis d'empathie.
Oui. Ben, oui, ça mais il y a ça, cette espèce de filtre-là que permet les réseaux sociaux, là, tu sais, qui fait qu'il y a comme un anonymat où on dit à peu près n'importe quoi et on passe ses frustrations. Moi, c'est pas d'hier que j'ai un peu de misère avec les réseaux sociaux puis les Facebook de ce monde et les messages odieux qu'on peut recevoir. C'est une bonne réflexion à avoir sur les réseaux sociaux, puis après ça, plus précisément sur la condition de... Mais moi, là, sincèrement, Bernard, oui, ça existe, là, ça, ces injures-là qu'on reçoit, et c'est extrêmement cruel.
Parce que t'es parent d'un enfant autiste, là, c'est pour ça qu'ils t'insultent.
Ben, tu sais, ça va chercher quelque chose de profond en nous, là, tu sais, c'est sûr que mon fils, il ne sera jamais fonctionnel. J'ai toujours dit, hein, première chose que j'ai dit de mon fils, là, publiquement, c'est, tu sais, dans la vie, il y a la 40, puis il y a la voie de service. Mon fils, il prendra jamais la 40. Mais ça veut pas dire qu'il sera pas heureux, puis qu'il se développera pas, puis qu'il n'évoluera pas comme humain. Puis c'est là-dessus beaucoup, beaucoup qu'on travaille, Charles et moi. Sur le... Bien sûr, on investit sur des enfants qui ont besoin de soins plus jeunes, mais qu'advient-il de eux à la majorité et jusqu'au 21 ans, le fameux 21 ans où tu n'es plus scolarisable, où tu n'as plus cette possibilité-là de poursuivre ta scolarité d'une façon ou d'une autre. Tout cet investissement-là qu'on a eu ou qu'on a investi comme société chez nos jeunes, qu'adviendra-t-il de ça quand mon fils va avoir 21 ans puis qu'on va lui demander à longueur de journée de se bercer dans une chaise en écoutant la télé l'après-midi? T'sais. Y aurait-il moyen de poursuivre? Il y a une différence entre désinstitutionnalisation et lâcher quelqu'un.
Mais ça,
là,
c'est une...
présentement,
oui,
on les lâche un peu.
Mais on lâche les jeunes adultes, si on peut les appeler comme ça, mais on lâche les parents des jeunes adultes aussi, là, qui sont complètement laissés à eux-mêmes.
Moi, j'ai
une bonne amie, Maryse Tessier, qui a travaillé fort pour donner à son fils Thomas puis à d'autres enfants comme son fils qui est autiste et qui a d'autres conditions aussi, une espèce de maison, là. Et elle a réussi, puis elle travaille encore là-dedans. C'est très difficile. C'est très difficile pour les enfants autistes de plus de 21 ans. Je dirais les enfants qui ont aussi une déficience intellectuelle, il ne faut pas les oublier, de plus de 21 ans. Ils sont beaucoup laissés à eux-mêmes. Et évidemment, les parents de ces enfants-là sont laissés seuls. Je veux juste savoir, Sophie, je veux pas oublier là le docteur Motron là. Vous avez écouté l'entrevue.
Oui.
Est-ce que c'est-tu la première fois que vous entendez cette thèse-là, vous, à l'effet que peut-être qu'on fait un surdiagnostic d'enfants autistes qui, dans les faits, ne sont pas? C'est la première fois que vous entendiez ça?
Oui, c'est la première fois que j'entends ça, mais vous savez, c'est la même problématique en ce qui concerne l'hyperactivité, le déficit d'attention. Est-ce qu'on surmédicamente nos enfants? Est-ce que les diagnostics sont les bons? Ça, j'ai entendu ça. En ce qui concerne l'hyperactivité puis les déficits d'attention, est-ce qu'on n'est pas trop vite sur la médication? Est-ce qu'on ne les diagnostique pas un peu trop vite? Ben, moi, je vous dis pas que ça se peut pas. Tu sais, je suis pas une scientifique puis je peux pas je peux pas me prononcer là-dessus. J'ai pas ce que ça prend pour me prononcer là-dessus. Ce que je constate, c'est qu'il est extrêmement difficile de bien diagnostiquer ces enfants-là. Parce que mon fils, il est assez direct dans la ligne du spectre de l'autisme, là. Et malgré tout, rendu, là, il va avoir 18 ans au mois de décembre, mais moi, il y a 3 semaines, j'ai appris qu'il était aussi, qu'il souffrait de dyspraxie. Tu sais, ce que
c'est
je veux
quoi,
dire...
C'est quoi, Sophie? Excuse-moi, ben, c'est quoi?
Ça, c'est la dyspraxie. T'sais, mon fils, il parle presque pas, Bernard. Là. Il ne compose pas une phrase. Il va dire des mots. Maman, je veux. Moi, j'ai pâte. Mais parce qu'il a appris la séquence. Il est pas capable de composer une phrase avec un sujet, un verbe et un complément. Puis, il est pas capable non plus de créativité dans sa ça sort tout croche dans sa bouche, il y a de la misère à prononcer, la dyspraxie.
On mélange les lettres, hein, on mélange les lettres dans les mots, m'écrit un auditeur, ça a du sens.
Oui, puis il y en a toutes sortes de formes de dyspraxie aussi, puis il y a de la dyslexie, puis faut faire attention. Mon fils, il a du mal à prononcer les mots, il se trompe de mots. Alors ça devient bon, ce que je veux dire là, c'est qu'un diagnostic, ça, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai l'impression des fois qu'on essaie, il y a des petits moules devant nous, puis là, on va pogner ton. Tu pognes ton enfant, tu essaies ce moule-là, puis là, tu essaies ce moule-là, puis celui-là. Puis s'il ne rentre pas, c'est complexe, un enfant, c'est un être humain. Il peut être un peu autiste, mais bien, il peut avoir aussi autre chose. Oui. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile de les diagnostiquer. Ensuite, je reconnais ce qu'il dit, là, Laurent Motron. Il y a du bon sens dans ce qu'il dit. Il y a probablement des enfants qui ne sont pas vraiment des autistes et qui ont des symptômes, des caractéristiques d'autisme, mais qui le sont peut-être. Ça se peut, je vous dis, comme peut-être qu'il y en a aussi à qui on dit t'es un enfant hyperactif ou t'as un déficit d'attention, puis ça n'en est pas vraiment, vraiment un. La science, là, c'est exact, mais l'humain ne l'est pas.
Oh oui, non, c'est bien
ça, dit. Il y a une zone grise, très nébuleuse. C'est dur de diagnostiquer nos enfants. C'est ça que je veux dire.
Il me reste juste une minute, Sophie. Je veux juste savoir, on réussit... On peut être heureux puis rendre un enfant autiste heureux?
Ben oui.
Oui.
Ben oui. Mais tu sais, il faut qu'ils sentent qu'on est là avec eux, puis qu'on les prend où ils sont, puis on va les mener le plus loin possible comme ils sont. Mon fils, là, à 18 ans ou à 20 ans, il va être encore capable d'évoluer, mais il n'ira pas à l'université, puis il n'en fera pas de postdoc. Mais c'est pas grave. Pourquoi il n'y a pas de structure pour lui? Je dis, il va évoluer. Il est capable de ça. Fait que faut pas les laisser tomber, mais faut y croire. Puis oui, moi, Charles dit tout le temps, c'est mieux de réussir sa vie d'autiste que de manquer sa vie de neurotypique. Tu sais? Ça se réussit, une vie d'autiste. Ça se réussit, ça, je suis convaincue de ça. Oh ben non, alors moi, je vais aller me rhabiller, puis j'ai plus d'affaires là.
Non, mais je...
C'est ça mon combat, tu sais. C'est ça, moi, Bernard, que je veux. Je veux qu'on les comprenne mieux. C'est pour ça que j'ai laissé rentrer des caméras à la maison, tu sais. Je veux que les gens voient, comprennent, soient empathiques, tu sais. Je veux qu'il y ait une décision collective par rapport à eux. Oui, on va en prendre soin. C'est ça que je veux, tu sais.
Sophie Préjean, donc, qui témoignait comme maman aujourd'hui, maman de Mathis, et puis accessoirement aujourd'hui présidente de l'UDA. Merci beaucoup, Sophie.
Ça me fait plaisir, Bernard. Merci de m'avoir reçu.
À la prochaine.